Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 3 août 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. En RDC, 16 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans la province de l'Ituri. Inquiétude sur les droits de l'homme en Tunisie, l'ONU propose son assistance. Iran, l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi intronisé président aujourd'hui. Afghanistan, des combats meurtriers se poursuivent dans le sud du pays. L'ONU s'inquiète pour les civils. Ne manquez pas dans cette session d'information l'espoir avec notre spécial Jeux Olympiques. Mais tout d'abord, le journal. Nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 16 civils ont été tués hier en Ituri. Cette tuerie est attribuée au groupe armé ADF selon des sources militaires. Claire Morin-Jibou.
Les victimes ont été exécutées à l'arme blanche sur la route nationale 4 à hauteur de la localité d'Idohou, a précisé Dieudonné Malangaï, vice-président de la société civile de la chefferie de Walese Vonkotou. Il précise que parmi les victimes figurent au moins deux femmes, prises en otage il y a quelques semaines par les rebelles des forces démocratiques alliées ou ADF. Lors d'un meeting à Komanda, le lieutenant-général Nkashama, gouverneur militaire pour l'Ituri, a déploré cette tuerie et a affirmé que l'armée allait renforcer sa présence dans la région. L'objectif est de nettoyer la zone et de permettre à la population de regagner les villages, a-t-il ajouté. On pensait que l'état de siège allait ramener la sécurité, mais les gens continuent à mourir tous les jours, ont lancé certains habitants qui ont exprimé leur déception. Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège afin de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les populations.
Au Mali, un accident de la route a fait aujourd'hui 37 morts et de nombreux blessés graves. Ce bilan est provisoire selon les autorités. L'accident est survenu à Zambougou, à 20 km de la ville de Ségou. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System, reporté en 2020 en raison du coronavirus, aura lieu du 7 au 12 septembre à Abidjan, a annoncé aujourd'hui le chanteur Salif Traoré, dit à Salfo. Le Sénégal, pays invité, est attendu avec une délégation de 50 personnes pour exposer ses valeurs culturelles. L'ONU a condamné aujourd'hui les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré. Le gouvernement a par le passé accusé les travailleurs humanitaires d'être du côté des forces rebelles issues du Front de libération du peuple du Tigré, voire de les armer. Les accusations généralisées contre les travailleurs humanitaires doivent cesser, a déclaré Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires lors d'une conférence de presse organisée à Addis Abeba. La directrice de l'USAID, l'Agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé ce mardi à la fin de sa visite de 4 jours au Soudan à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises. La patronne de l'USAID s'est rendue dans la région du Darfour, théâtre de plusieurs années d'un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Elle s'est également rendue dans le camp d'Oum Rakba, dans l'est près de la frontière éthiopienne, qui abrite des milliers de réfugiés qui ont fui les combats au Tigré en Éthiopie. Madame Power a annoncé une assistance vitale de 56 millions de dollars au Soudan et une autre de 4,3 millions de dollars pour soutenir les élections prévues à la fin de la période de transition en 2024. Michelle Bachelet, haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a fait état de son inquiétude sur la situation en Tunisie et a réitéré son offre d'assistance. C'était lors d'une conversation téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Gerandi. Les précisions de John Lyndon.
Michelle Bachelet a indiqué au chef de la diplomatie tunisienne qu'elle suit la situation de près et que ses services sont là pour aider si la Tunisie faisait la demande, a expliqué la porte-parole du Haut Commissariat à Genève. Ce que nous espérons, c'est que tous les progrès réalisés ces 10 dernières années en termes de réformes démocratiques puissent être préservés et qu'il n'y aura pas de régression sous quelque forme que ce soit, a-t-elle insisté. Sur son compte Twitter, le ministre tunisien des Affaires étrangères a fait état de conversations depuis une semaine avec des homologues européens au cours desquels il a défendu le bien fondé des mesures prises par le président Kais Saied et assuré du choix irréversible de la démocratie. Le président tunisien a assuré vendredi qu'il n'y avait pas de peur à avoir concernant les libertés et les droits dans son pays et que les arrestations de ces derniers jours ne concernent que des personnes déjà poursuivies par la justice.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé aujourd'hui que son gouvernement était prêt à augmenter le prix du pain subventionné dans le cadre des mesures de rigueur pour le redressement économique du pays. Des Égyptiens ont réagi avec colère sur les réseaux sociaux après les commentaires de M. Sissi avec le mot-clé « tout sauf la miche de pain ». Le journaliste marocain Souleyman Raïssoui, récemment condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle, demande à être hospitalisé pour mettre fin à sa grève de la faim entamée il y a 118 jours. Ce week-end, l'état de santé du journaliste s'est détérioré après un malaise, a fait savoir son avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, Ibrahim Raisi, un ultra-conservateur, a été intronisé aujourd'hui président. Il devra s'atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire et relancer les pourparlers pour sauver l'accord international sur le nucléaire. Le point avec Rosine Mounizero.
Conformément au choix du peuple, j'intronise l'homme sage, infatigable, expérimenté et populaire Ebrahim Raisi comme président de la République islamique d'Iran, a écrit le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans un décret lu par son chef de cabinet. Vainqueur de la présidentielle de juin marquée par une abstention record, M. Raisi succède au modéré Hassan Rouhani, qui avait conclu en 2015 un accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Le nouveau président iranien a prévenu qu'il cherche à obtenir la levée des sanctions oppressives sans lier les conditions de vie des Iraniens à la seule volonté des étrangers. Il a indiqué que la situation économique n'est pas favorable pour le peuple, à la fois en raison de l'inimitié des ennemis et en raison des lacunes et des problèmes à l'intérieur du pays. M. Raisi, 60 ans, a entamé officiellement son mandat de 4 ans après l'approbation de son élection par le guide suprême. Il va prêter serment jeudi devant le Parlement et devra présenter ses candidats pour les postes ministériels.
Combat meurtrier dans la ville afghane de Lashkarga, dans le sud, où 40 civils ont été tués en 24 heures, selon l'ONU. L'armée afghane appelle les populations à évacuer la cité. Abdourahman Dia.
Le général Sami Sadat, plus haut gradé de l'armée dans le sud de l'Afghanistan, a lancé un appel aux populations à travers un message audio. Nous vous demandons de quitter vos maisons dès que possible. Nous allons affronter les talibans et les combattre durement, a-t-il dit. Nous ne laisserons pas un seul taliban en vie. Partez dès que possible afin que nous puissions entamer notre opération, a-t-il ajouté. Plus tôt mardi, la mission de l'ONU en Afghanistan a exprimé dans un tweet sa profonde inquiétude pour les civils à Lashkarga, appelant à la cessation immédiate des combats dans les zones urbaines. La mission onusienne indique que les civils sont particulièrement victimes de l'offensive au sol des talibans et des bombardements de l'armée afghane dans cette ville de 200 000 habitants. Un responsable d'une radio locale a indiqué à l'AFP que les combats ont été intenses ce matin, affirmant que des bombardements menés par des appareils afghans et américains ont ciblé les positions des talibans à l'intérieur de la ville. Il a précisé que sa radio a cessé d'émettre dimanche car les talibans se sont emparés du bâtiment.
Une forte explosion a secoué Kaboul, capitale de l'Afghanistan ce soir, peu avant 20h locale. La secousse a été fortement ressentie dans le centre de Kaboul et un panache de fumée a été aperçu après l'explosion provenant d'un endroit indéterminé. Aucun détail sur l'origine ou les lieux de l'explosion n'était disponible dans l'immédiat. Un Palestinien américain a été condamné pour meurtre ce mardi par la justice militaire israélienne après avoir tiré en main sur un jeune Israélien ayant succombé à ses blessures, a indiqué l'armée. Montasser Chalabi, 44 ans, a été condamné sur la base de ses aveux pour homicide volontaire qui équivaut à un meurtre, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué précisant que la peine serait annoncée le 4 octobre 2021. Ici aux États-Unis, le Pentagone était en alerte ce matin en raison d'une fusillade à proximité, selon les services de sécurité du ministère américain de la Défense. Les employés ont été appelés par haut-parleur à rester à l'intérieur du bâtiment après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus du célèbre bâtiment en banlieue de Washington. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir distribué plus de 100 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 dans le monde, plus de dons que tous les autres pays réunis. Ces dons ne sont que le début des efforts de l'administration américaine pour fournir des vaccins au monde entier, est-il indiqué dans un communiqué. Dès la fin du mois, les États-Unis vont ainsi commencer à expédier les 500 millions de doses du vaccin Pfizer qu'ils ont promis à 100 pays en voie de développement. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Get into the game. Place maintenant au sport, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Enfin une médaille pour le Nigeria dans ces JO de Tokyo. Bagassi Koura.
Oui, Eze Brune décroche la première médaille de ces JO pour son pays dans la discipline du saut en longueur. Elle a arraché le bronze avec un saut de 6,97 m, la même performance que la deuxième, l'américaine Britney Reese, qui a réussi un deuxième meilleur bond, d'où sa médaille d'argent. Eze Brune est la première Nigériane sur le podium olympique de la longueur depuis le titre de Chioma Adunua en 1996 à Atlanta. L'or est revenu à l'Allemande Malaika Mihambo, devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7 mètres. Au 200 mètres, la sensation namibienne Christine Mboma, 18 ans, a enlevé la médaille d'argent, devenant la deuxième médaillée olympique de l'histoire de la Namibie, tout sport confondu. Après, bien sûr, le sprinter Frankie Frédéric, star des années 90. La grosse déception est ivoirienne. Marie-Josée Talou a fini la course à la cinquième place. L'épreuve a été dominée par la Jamaïcaine Helen Thompson-Herah, qui a réussi du même coup le doublé trois jours après le 100 mètres, comme à Rio en 2016. Avec le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire, 21 secondes 53, l'américaine Gabriel Thomas a pris la troisième place. En boxe, messieurs, le Ghanéen Samuel Taki a enlevé le bronze à égalité avec le Cubain Lázaro Álvarez.
Merci, Bagassi. Un peu plus tôt, dans l'épreuve du triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est qualifié pour la finale avec un saut à 16,83 m, loin de ses standards habituels. La finale aura lieu jeudi 5 août au 1500 m, messieurs. Le Kenyan Timothy Cheruiyot a fini deuxième de la série numéro 1, 3 minutes 36, derrière le Belge Ismaël Debjani. Avec le même chrono, l'Éthiopien Tedes Lemi a occupé la deuxième place de la série numéro 3. L'autre Kenyan Abel Kipsang a terminé premier de la série 2 en 3 minutes 40. Au 5000 mètres, messieurs, le Kenyan Nicolas Kipkorir Kimeli est arrivé premier de sa série. Dans le reste des nouvelles de ces JO, la superstar de la gymnastique, Simone Biles, a remporté la médaille de bronze lors de la finale de la poutre derrière la chinoise Guan Shechen. En basketball, messieurs, Team USA, triple champion olympique en titre, a écarté sans ménagement l'Espagne 95-81 pour se qualifier pour les demi-finales. En football masculin, le Brésil sacré chez lui en 2016 s'est qualifié pour la finale à l'issue des tirs au but. 4 tirs réussis contre 1 face au Mexique. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Samedi en finale, les Brésiliens feront face à l'Espagne, victorieuse après prolongation du Japon 1-0 dans l'autre demi-finale. Vous le savez, les athlètes réfugiés participent aux Jeux Olympiques sous la bannière de l'équipe des réfugiés du Comité international olympique. Animés d'espoir, les familles des athlètes réfugiés du camp de Kakuma au Kenya leur envoient des messages d'encouragement et des bénédictions.
Halif faisait partie de l'équipe historique de réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio il y a 5 ans. À Tokyo, elle visera l'or à l'épreuve des 1500 mètres. Sa tante Marie est extrêmement fière.
Je pense qu'elle est un exemple pour la jeunesse. Elle m'inspire beaucoup. Si j'étais jeune, j'aurais vraiment aimé devenir une athlète. Je continue d'encourager mes propres enfants à s'inspirer d'Angelina.
Tout comme Angelina, les athlètes Paolo Amoton et Rose Natike ont également échappé à la guerre au Soudan du Sud. Depuis, ils vivent au camp de réfugiés de Kakuma et s'entraînent dans un centre sportif à Ngong, près de la capitale Nairobi. Véronica, la maman de Rose Naidishi, lui envoie des bénédictions.
Que Dieu t'accorde un cœur pur, cours avec, cours comme tu le fais en temps normal. Je prie pour que tu puisses remporter la première place du podium.
Regina, la sœur de Paolo Amoton, espère également que son frère reviendra avec la médaille d'or.
Je souhaite que tu te classes en excellente position pendant la course et je prie pour que le Seigneur te guide vers la victoire.
Cette année, ils sont 29 athlètes réfugiés à concourir à Tokyo dans 12 disciplines sous la bannière du drapeau olympique.
Merci Sidibi. C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux olympiques.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.